Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi 30 novembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Les présidents iraniens et français se sont entretenus au téléphone de la coopération bilatérale des pourparlers de Vienne et de coopération conjointe pour combattre le nouveau variant du coronavirus. L'Iran, fermement déterminé à parvenir à un accord à Vienne, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Nous mettons en garde contre l'intention d'un coup d'État contre les accords de Taif, a souligné un haut responsable du Hezbollah libanais. Les élections locales sont la dernière étape pour l'édification d'un État moderne, selon le président algérien. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Lors d'un entretien téléphonique, les présidents iranien et français se sont entretenus de la lutte commune contre le coronavirus, de la coopération régionale et des pourparlers nucléaires. Au cours de cet entretien téléphonique qui a duré 90 minutes, le président français a appelé à une coopération conjointe sur la nouvelle variante du coronavirus, de coopération qui a été saluée par le président iranien Ebrahim Raisi. Le président Raisi a déclaré lors de cet appel téléphonique que l'Iran a toujours respecté ses engagements sur la question nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé à plusieurs reprises l'adhésion de l'Iran. Il faut demander à ceux qui ont violé l'accord pourquoi ils n'ont pas rempli leurs obligations, s'est-il interrogé. Et nous réaffirmons que nous sommes attachés à nos engagements, a souligné le président Raisi. Évoquant le début des négociations pour la levée des sanctions, le président iranien a déclaré l'envoi d'une équipe complète aux négociations montre la volonté sérieuse de l'Iran dans ces négociations. Le président Raisi a appelé de son homologue français Emmanuel Macron à travailler avec d'autres pays à Vienne pour conclure les négociations et lever les sanctions contre l'Iran. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. L'Iran est fermement déterminé à parvenir à un accord sur le dossier nucléaire lors des pourparlers à Vienne, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. La délégation de la République islamique d'Iran est à Vienne avec la ferme détermination de parvenir à un accord et envisage des pourparlers fructueux, a déclaré Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le gouvernement a montré sa volonté et son sérieux en envoyant une équipe possible de qualité connue de tous. Si l'autre côté montre la même volonté, nous serons sur la bonne voie pour parvenir à un accord, a-t-il ajouté. Si les États-Unis viennent à Vienne avec la détermination de sortir de l'impasse et de surmonter les problèmes sur lesquels nous n'étions pas d'accord lors des rounds précédents, la voie du dialogue sera certainement plus facile, a souligné encore le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a affirmé que la Syrie avait donné au monde entier une leçon sur la confrontation des plans visant sa stabilité et l'unité de ses territoires, assurant que les accomplissements réalisés par l'armée des Syriens dans la guerre contre le terrorisme et la fermeté du peuple syrien avaient mis en échec ses plans. Dans une interview qu'il a accordée à la chaîne de TV Sana, Miqdad a dit « 10 ans sont passés après le début de la guerre des terroristes, dont ses planificateurs n'ont pas pu réaliser leurs objectifs aussi dans la destruction de la Syrie au profit de l'entité d'occupation israélienne, assurant que la Syrie avait donné au monde entier une leçon sur le fait qu'elle ne capitule pas. » Miqdad a qualifié de positive les positions de beaucoup de pays envers la Syrie, soulignant que les positions adoptées aux différents niveaux pour trouver une solution à la situation en Syrie avaient eu lieu grâce aux accomplissements de l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme et à la fermeté légendaire du peuple syrien en dépit de la destruction du terrorisme, du meurtre et de la conspiration visant la Syrie. Nous mettons en garde contre l'intention d'un coup d'État contre les accords de Taïf et de ce coup d'État vise à rassurer les Israéliens et à leur garantir de l'incapacité de notre peuple à faire face à leur agression afin d'infiltrer leur politique de naturalisation et de contrôler du sort de notre gaz dans nos réseaux, a affirmé le chef du bloc de fidélité à la résistance, de Mohammad Raad. Il a ajouté « Nous sommes surpris que l'exploration du gaz soit monopolisée par certaines entreprises de pays spécifiques. Malgré tout cela, nous parlons d'indépendance et de souveraineté et nous n'avons pas la capacité de construire une centrale électrique qui fournira au Liban de l'électricité 24 heures par 24 heures. » Et d'ajouter, notre monnaie nationale s'est effondrée à cause de sa dépendance aux devises étrangères. Et demain, notre politique s'effondrera à cause de sa dépendance à l'égard des politiques étrangères. Il a souligné, si le peuple libanais veut que les choses soient ainsi, il peut le décider par lui-même, mais nous sacrifions du sang et des vies afin de préserver la dignité de ces personnes, même si certains ne connaissent pas leurs intérêts à ce stade. Mais faut-il se suicider jusqu'à ce que les autres soient satisfaits? Or, nous voulons que de ce pays soit gouverné de manière indépendante et souveraine et que ses intérêts soient conformes à ses aspirations et à sa volonté de décision nationale. Les élections locales sont la dernière étape pour l'édification d'un État moderne, a souligné le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il a déclaré à Alger que les élections locales qui se déroulaient dans la journée à travers, en fait, le territoire national étaient la dernière étape pour l'édification d'un État moderne. Dans une déclaration à la presse après avoir accompli son devoir de vote dans la banlieue ouest d'Alger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que cette échéance électorale était la dernière étape pour l'édification d'un État moderne avec la participation de ses enfants qui choisiront leurs responsables élus, ajoutant « Nous bâtirons un État économiquement fort au sein de la démocratie et de la liberté du citoyen. » S'exprimant sur l'importance de ces élections locales, le président algérien a rappelé que ce rendez-vous électoral s'inscrit dans le cadre du parachèvement de l'édification des institutions de l'État élu. Et une autre actualité concernant l'Afrique, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo a réfuté, c'était lundi soir à Kinshasa, l'information sur la présence de l'armée ougandaise dans la partie nord-est de la RDC. Le porte-parole du gouvernement a assuré que dans la phase actuelle, il n'y avait pas de troupes ougandaises en RDC, précisant cependant que le gouvernement était prêt à monter d'un cran face à l'insécurité provoquée par ces rebelles qui règnent depuis des années dans cette partie de la République démocratique du Congo. La Tunisie n'a pas encore l'intention de fermer ses frontières face à la propagation d'un nouveau variant du coronavirus dans plusieurs pays selon un responsable sanitaire. La Tunisie n'a pas encore l'intention de fermer ses frontières en raison de la propagation du nouveau variant Omicron dans plusieurs pays au moment où les autorités sanitaires tunisiennes prenaient de nouvelles mesures pour empêcher l'infiltration de cette souche dans le pays, a révélé de lundi Chokri Djeribi, membre de la Commission nationale tunisienne de vaccination contre le nouveau coronavirus. Et expert en recherche clinique, il a fait savoir dans une intervention à la radio privée Divan que le ministère tunisien de la Santé avait déjà décidé de renforcer le contrôle des arrivées sur le sol tunisien et que ces mesures prises étaient jusque-là suffisantes. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous proposer dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Les présidents iraniens et français respectivement, Ebrahim Raisi et Emmanuel Macron, se sont entretenus au téléphone, ce dont nous parlons dans notre commentaire politique. Lors d'un entretien téléphonique, le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue iranien Ebrahim Raisi de la lutte commune contre le coronavirus ainsi que de la coopération régionale et des pourparlers nucléaires. Au cours d'un entretien téléphonique qui a duré de 90 minutes, le président français a appelé à une coopération conjointe sur la nouvelle variante du coronavirus qui a été saluée par le président iranien. Le président Raisi a déclaré lors de cet appel téléphonique que l'Iran aura toujours respecté ses engagements sur la question nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé à plusieurs reprises en fait cela. Il faut demander à ceux qui ont violé l'accord pourquoi ils n'ont pas rempli leurs obligations et nous réaffirmons que nous sommes attachés à nos engagements, a-t-il déclaré. Évoquant le début des négociations pour la levée des sanctions, le président Raisi a déclaré « L'envoi d'une équipe complète en négociation montre la volonté sérieuse de l'Iran dans ces négociations. » Ebrahim Raisi a appelé le président français Emmanuel Macron à travailler avec d'autres pays à Vienne pour conclure les négociations et lever les sanctions. Le président Raisi a souligné « Les sanctions n'ont pas pu arrêter l'Iran sur la voie du progrès et aujourd'hui le monde entier décès qui sont les contrevenants au plan global d'action conjoint et ils doivent retourner à leurs obligations. Raisi a souligné la situation actuelle est le résultat du non-respect par les Américains et les Européens de leurs obligations prises dans le cadre du plan global d'action conjoint. Se référant à la récente visite du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran et son annonce que l'Iran respecte ses obligations nucléaires, le président présent Raïssi, a déclaré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique en Iran, n'a rien dit au sujet du non-respect de l'Iran et nous sommes prêts à poursuivre notre pleine coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, a souligné le président Raïssi. Si les Américains lèvent les sanctions et que les Européens respectent leurs engagements, ne vous inquiétez pas du respect des engagements de l'Iran, parce que nous avons montré à maintes reprises dans la pratique que nous tenons à nos engagements. Le président Raïssi a déclaré, si vous croyez en l'Agence internationale de l'énergie atomique comme référence, la même AIEA a déclaré à plusieurs reprises que la République islamique d'Iran s'est conformée à ses obligations nucléaires. Dans une autre partie de son discours faisant référence à la vaccination généralisée en Iran, le président Raïssi a déclaré, compte tenu des nouvelles concernant la nouvelle variante du coronavirus, tout le monde devrait être prudent et utiliser les expériences précédentes pour y faire face. Nous considérons le plan global d'action conjoint comme notre responsabilité commune et j'ai toujours essayé de ramener toutes les parties au cadre de l'accord, a déclaré pour sa part lors de cet entretien téléphonique le président français Emmanuel Macron. Le président français a ajouté, j'ai eu des entretiens avec le président Biden à cet égard et nous sommes déterminés à poursuivre les pourparlers pour parvenir à un résultat. Et le président français de conclure, la France veut poursuivre les discussions avec l'Iran pour progresser dans la résolution des problèmes.
Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la France, particulièrement le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui a affirmé que le gouvernement était prêt à dialoguer sur l'autonomie de la Guadeloupe. Alors, ce qui a suscité énormément la colère, aussi bien chez la gauche que chez la droite, car cela, ce n'est pas le hasard ni la bonne volonté du gouvernement français qui évoque l'autonomie de l'île. Et justement, les habitants de l'île qui sont noyés dans une crise financière et sanitaire sans précédent exigent du gouvernement français de l'autorité, du dialogue et bien sûr du soutien économique et sanitaire, bien sûr. Des experts des questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui, tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
Nombreuses voix, issues majoritairement de la droite, mais aussi de la gauche, se sont élevées après la déclaration du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, affirmant que le gouvernement était prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Le 26 novembre, dans une allocution télévisée aux Guadeloupéens, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a indiqué que certains élus avaient posé la question en creux de l'autonomie et que Paris était prêt à parler de l'autonomie de l'île, actuellement touchée par une violente crise. Le gouvernement est prêt à en parler. Il n'y a pas de mauvais débat du moment que ces débats servent à résoudre les vrais problèmes du quotidien des Guadeloupéens, a affirmé le ministre. Des propos qui ont suscité de vives réactions de la part de responsables politiques de droite, mais aussi de gauche. Michel Barnier et Eric Ciotti ont réagi sur Twitter au propos de Sébastien Lecornu. La réponse gouvernementale à la crise aux Antilles, c'est l'autonomie. Les Guadeloupéens et les Martiniquais ne veulent pas moins d'État. Au contraire, ils entendent que l'État se tienne à leur côté et assume ses responsabilités, a affirmé le président de la région Hauts-de-France. Une déclaration à laquelle le ministre des Outre-mer a répondu en deux temps. D'abord, en évoquant les mensonges et approximations de Xavier Bertrand, puis en évoquant son mépris et sa méconnaissance de ce qui est fait déjà dans les collectivités du Pacifique. Décentralisateur pour l'Hexagone, mais centralisateur en Outre-mer, s'est exclamé, non sans ironie, le président du conseil départemental de l'Eure.
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à mon ami Pierre Condon que j'ai le plaisir à retrouver sur votre plateau.
Voilà, justement, un grand bonjour également à M. Pierre Clavier Nkodo, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau. Bonjour. Monsieur Nkodo, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Malheureusement, notre liaison avec Nkodo depuis le Cameroun n'est pas encore faite. À présent, je m'adresse à Monsieur Luc Michel pour commencer. Alors, Monsieur Michel, évidemment, la Guadeloupe est noyée dans une crise sanitaire économique sans précédent. Et là que les habitants de l'île ont besoin de l'aide, il n'y a plus personne. Et là, on parle jusqu'à donc dire que le gouvernement était prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. Que pensez-vous?
Écoutez, c'est un problème complexe, mais il faut savoir qu'il y a un mouvement indépendantiste, anticolonial, et celui-ci fait la liaison avec les mouvements anti-français du Mali, de Centrafrique et du Burkina Faso, et le sentiment anti-français. Mais quelle est la situation en Guadeloupe? La Guadeloupe, ce sont ce qu'on appelle des confettis de l'Empire. Ça fait partie des 300 petits territoires qu'à la décolonisation, la France a gardé. La particularité, c'est que les territoires stratégiques, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ou Mururoa dans le Pacifique, elles ont reçu un statut de territoire français d'outre-mer, ce que la France appelle les territoires ultramarins. Il y a trois camps en position. Il y a tout d'abord le clan macroniste. Lui, il dit que les événements de Guadeloupe, ce sont des mouvements de voyous, c'est un soulèvement de bandits qui est lié à la contestation anti-vaccinale et anti-pass vaccinale. C'est tout à fait inexact. Et la réponse de Macron, comme ça a été fait lors des événements des Gilets jaunes en France, c'est la criminalisation. On a envoyé les unités anti-spéciales de la police, le GIGN, qui est le mouvement antiterroriste, et le RED, qui est le mouvement anti-voyou et anti-prise d'otages. Deuxième partie, ce sont les autonomistes qui sont soutenus par la droite française. En fait, eux, ils veulent plus d'État français au sein de la Guadeloupe et de la Martinique. Enfin, il y a un mouvement dit indépendantiste qui, malheureusement, n'est pas unifié. Il y a une tendance anticoloniale, c'est le mouvement indépendantiste pour. Et il y a une tendance culturelle qu'on appelle le mouvement créole, qui est pour une plus large autonomie réelle avec toutes les composantes de la société guadeloupéenne, aussi bien les Blancs que les Africains. Derrière tout cela, il y a la crise d'une société postcoloniale qui est liée à la question esclavagiste. La société guadeloupéenne, la société martiniquaise, c'est une société qui porte le poids des siècles d'esclavage et de la séparation de la société guadeloupéenne et martiniquaise au cours des colons blancs et des descendants des esclaves. La colère qui émet aujourd'hui, c'est une crise profondément politique et sociale, c'est une crise qui est liée au statut particulier de ces territoires qui sont une partie de la France, mais où les Guadeloupéens et les Martiniquais n'ont pas tous les droits dont disposent les Français. Et enfin, c'est une crise sociale et économique qui est liée à la crise économique, qui est liée à une crise liée particulièrement à un scandale écologique lié à l'utilisation de pesticides dans les plantations de bananes. C'est un pesticide qu'on appelle le chlordécone. On l'a toléré pendant des années alors qu'il était interdit en France pour continuer à produire des bananes. Et ça a produit une crise grave puisqu'il y a une épidémie de cancer de la prostate notamment au sein de la population paupérisée guadeloupéenne. Voilà donc ce qui se passe. Il ne faut pas écouter la propagande de Macron. Ce n'est pas un mouvement de voyous. Ce n'est pas une crise uniquement qui est liée à un problème politique. C'est une crise qui est liée à ce qui se passe en Afrique. Le refoulement du colonialisme français dans toutes les anciennes colonies et dans celles qui sont restées des colonies françaises.
En effet, Luc Michel, c'est un problème très complexe. À présent, je m'adresse à M. Pierre Clavier Nkodo. Est-ce que vous nous entendez? Vous êtes avec nous depuis Cameroun, Nkodo? Mais malheureusement, pas encore. Donc, je m'adresse à nouveau à M. Luc Michel. Alors, Luc Michel, évidemment, les responsables français évoquent le fait que c'est une minorité qui est la France et on n'a pas besoin de se déranger pour cette minorité. Donc, ma question, est-ce qu'il s'agit d'une minorité déjà?
Écoutez, c'est une minorité active. C'est-à-dire que c'est la tranche la plus radicalisée de la population guadeloupéenne. Mais les événements qui sont en train de s'érouler tout lit, les barrages routiers, les attaques de postes et de préfectures, elles démontrent que c'est une minorité qui s'appuie sur un mouvement majoritaire. Une majorité mécontente de la France, mais évidemment au sein de cette majorité, une minorité veut l'indépendance tout de suite. C'est la même chose à Mayotte dans les Comores, c'est la même chose à la Martinique, c'est la même chose à la Guadeloupe. Maintenant, quelle est la technique du régime macroniste? C'est la technique qui a toujours été employée contre tout le mécontentement social, le mécontentement syndical en France, le mécontentement des Gilets jaunes, le mécontentement contre le passe vaccinal, c'est de noyer le mécontentement dans des pourparlers sans fin, dans des discours sans fin. On a dit du régime Macron que c'était un régime de la théâtralité et du discours sans suite. C'est effectivement ce qui se passe. Parallèlement à ceci, en gagnant du temps, le régime macronien veut accentuer les divisions au sein de la révolte guadeloupéenne et il veut criminaliser la frange la plus radicale de ce mouvement, comme il l'avait fait avec les Gilets jaunes. On rappellera qu'il y a encore actuellement des centaines de Gilets jaunes qui sont dans les prisons françaises, assignés à résidence, criminalisés. Ce sont des méthodes scandaleuses qui ne sont pas acceptables dans des démocraties qui se veulent libérales.
Tout à fait. Et cette fois, je suis sûr que nous allons entendre la voix de M. Pierre Clavier Nkodo, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau. Monsieur Nkodo, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes avec nous depuis Cameroun. Alors, monsieur Nkodo, évidemment, les habitants de la Guadeloupe s'attendent à ce que le gouvernement français soit à côté des habitants de cette île, au lieu de les laisser tomber, car... évidemment, ces habitants sont noyés dans une crise sanitaire et économique sans précédent, alors que le gouvernement préfère de dire que nous préférons de parler de l'autonomie. Que pensez-vous?
Oui, vous savez, monsieur, la France a toujours été dans une dynamique ou alors dans une tradition d'abandon de ces populations d'outre-mer et des d'outre-mer. Face à certaines difficultés. C'est un peu comme ces prédateurs qui, une fois avoir attrapé la proie, mangent le bon morceau et laissent la carcasse aux autres. C'est de ça qu'il s'agit. La France est en train de remettre au bout du jour une pratique qui se veut séculaire. Vous savez, nous sommes dans les Caraïbes, on l'a vu avec les Polynésies françaises, avec les Kanaks, qui, à la moindre révolte, ont vu leur leader massacré, emprisonné, assassiné. Aujourd'hui, ceux qui pensent que la France peut lâcher du net par rapport aux revendications des populations guadeloupéennes et martiniquaises devront attendre assez longtemps. La France ne s'intéresse pas au sort de ces populations qui appartiennent aux territoires d'outre-mer et ne sont pas conscients. Considérés comme des Français ou alors des personnes de seconde zone, plus que des descendants des esclaves. Ce qui importe à la France, c'est de garantir son hégémonie sur ces populations, sur ces pays, sur ces territoires, pour revendiquer une certaine dimension en ce qui concerne l'étendue et le poids de son empire colonial. Les populations auraient bon revendiqué la prise en compte de leurs besoins en matière de sécurité sanitaire et autres, que cela serait bien la France à transmettre surtout cette phrase de Macron qui est une phrase sans âme. Vous imaginez, monsieur, si un monsieur ne peut pas déjà faire un enfant, quel sens peut-il donner à la présence de Dieu de la, quelle importance peut-il accorder à la vie humaine, puisqu'il n'est pas producteur de vie humaine. Donc, c'est dommage pour ces populations qui, pourtant, ont participé à la construction de la France pendant des siècles, qui sont faits, qui ont été des esclaves, qui ont tout donné à la France, de les voir aujourd'hui abandonner à elles-mêmes et de voir également la France rentrer dans un dilatoire en parlant d'autonomie, en privilégiant, en préférant parler d'autonomie pour des populations qui, toutefois, ont participé, ont versé de leur temps dans la construction de cette glorieuse France. Voilà, c'est le schéma qui est réservé à toutes les anciennes colonies françaises, dans la mesure où, pour peu que vous soyez, soit que celle-ci soit des territoires français d'outre-mer ou alors des anciennes colonies, c'est le même statut auquel vous faites face. Pourquoi à votre qualité de d'ex-colonie française ou alors de néo-colonie française.
Pierre Kenkodo, est-ce que vous voulez bien réagir? Est-ce qu'on parle maintenant de l'effondrement de l'autonomie de la France et un gouvernement qui est complètement dépassé par les événements?
En effet, la France vient de payer le prix fort de son imposture séculaire. Vous savez, mon cher... On peut tromper l'opinion pendant des siècles, mais à un moment donné, cette opinion finit par se lasser et à chercher à connaître la vérité. Or, aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, avec la prolifération des nouvelles techniques de l'information et de la communication, les choses vont extrêmement vite. Les canaux d'information traditionnels sont pratiquement en train de se battre en brèche par des canaux informels qui n'obéissent pas aux contraintes qui sont celles des médias classiques et surtout des médias mainstream français. On est dans un schéma où la France ne contrôle même plus l'information. Malgré qu'elle essaie de s'accrocher, elle ne contrôle plus. Ce qui se passe en Guadeloupe, disons dans les Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, se passe également en Afrique. Vous avez vu la semaine dernière des populations burkinabées et nigériennes monter au créneau contre le passage des forces armées françaises sur leur territoire. J'ai la conviction que les images que ces populations ont reçues de ces manifestations qui ont eu lieu en Afrique ont rappelé à ces Guadeloupéens, à ces Martiniquais, qu'eux aussi peuvent oser. Qu'ils peuvent oser parce que c'est parti de quelque part et en une fraction, en très peu de temps, l'information est remontée à faire le tour du monde. Donc aujourd'hui, en réalité, la France ne peut pas, je doute que la France puisse retrouver son aura d'antan parce que cette aura a été construite sur du sable mouvant, avec le mensonge, l'imposture, le terrorisme, les assassinats, le crime. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat des courses, en fin de compte, sera de voir la France totalement décapitée dans des délais relativement courts par rapport au temps que la France est restée toute glorieuse. La France, quand on voit les dirigeants français, ils ne peuvent pas changer de paradigme. Ils vont rester dans une posture de pays dominant, n'engageront pas et ne proposeront jamais des solutions adaptées aux attentes des peuples en quête de liberté, comme c'est le cas au Mali, comme c'est le cas au Niger, comme c'est le cas au Burkina Faso, comme c'est le cas en Martinique, comme c'est le cas chez les Kanaks, en Polynésie française. Donc la France est simplement prise dans son propre piège. Et avec le temps, ça prendra le temps qu'il t'apprendra, mais il y a une seule certitude dont nous n'aurons peut-être pas l'occasion de vivre tous. Une seule certitude, c'est que l'Empire français, l'Empire néocolonialiste français, a effectivement entamé sa descente aux enfers.
Tout à fait. Luc Michel, la question que le monde entier se pose est la suivante. Est-ce que la France a et face à l'effondrement de l'autorité et celui de l'unité nationale?
Écoutez, la France, elle sera réduite dans les prochaines décennies à une petite puissance régionale en Europe. Il y a un livre qui est sorti le jour du sommet de Montpellier il y a quelques semaines. C'est une histoire définitive de la France-Afrique. Le sort de la France-Afrique qui est en train de couler, il est lié au sort des confettis de l'Empire. C'est la même problématique née du vol des indépendances, notamment africaines. Le titre du livre, c'est « L'Empire qui ne voulait pas mourir ». L'Empire français ne veut pas mourir, mais malheureusement pour lui, il est en train d'agoniser sous nos yeux. La France, évidemment, elle va perdre le contrôle de ses colonies, elle va perdre le contrôle de la France-Afrique, elle va perdre le contrôle aussi de ses territoires. Le contexte géopolitique n'est plus favorable, la France n'est plus de grande puissance, elle a aujourd'hui des concurrents, elle a des concurrents extérieurs, la Chine, la Russie, l'Iran, qui sont les concurrents de la France d'ailleurs dans le domaine maritime. Vous devez savoir que la principale zone d'affrontement entre le bloc américano-occidental auquel appartient la France et le bloc de l'Est, c'est précisément le golfe de Guinée, la mer Rouge, l'océan Indien, etc. Et les Antilles, bien entendu, vont suivre. Mais, secondement, il faut comprendre quelque chose, c'est que la France elle-même, elle est contestée cette fois-ci, économiquement et géopolitiquement, à l'intérieur même du bloc occidental, par les anglo-saxons, les Américains, les Anglais. Tout cela fait que la France est mal partie. Les conditions qui lui ont permis de maintenir l'escroquerie de la France-Afrique et des confettis de l'Empire, les conditions, comme disent les marxistes, objectivement, elles n'existent plus.
Monsieur Nkodé, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de M. Luc Michel, que la France va se réduire dans les années à venir à une petite région d'une petite puissance au sein de l'Europe?
La France est condamnée à devenir petite puissance, mais pas une puissance, elle sera simplement un pays régional. La France reste une puissance parce que, vous savez, la France s'est enfermée derrière des organisations comme l'Union européenne pour faire porter à ces organisations les fardeaux des actes qu'elles posent au détriment des autres peuples dans le monde. Et aujourd'hui, même l'Union européenne est en train de se fissurer. Vous vous rappelez les sorties il n'y a pas très longtemps, pas avant l'assassinat du guide libyen, le colonel Mouammar Kadhafi, vous vous rappelez les sorties des dirigeants italiens sur l'opportunité et d'autres qui ont même condamné cet assassinat, qui ont condamné l'agression de la Libye par le duo Sarkozy-Obama. Et aujourd'hui, cette évolution, les leçons tirées de cet acte criminel démontrent à suffire que c'est l'Union européenne qui fait les faits, parce que tout le flux des émigrés clandestins qui traversent aujourd'hui la Libye pour l'Occident ne s'arrête plus en France. Mais ces dispersés se retrouvent partout en Europe, dans les pays membres de l'Union occidentale, de l'Union européenne, mais même également en Europe de l'Est, dans les pays de l'ancienne Union soviétique. Vous comprenez que tous ces pays aujourd'hui constatent qu'ils se sont fait rouler dans la farine par la France depuis de très longues années, et plusieurs parmi eux n'hésiteront pas à remettre en question leur rapport, leurs relations avec la France qui, jusque-là, a profité de leur soutien pour les abuser, pour fragiliser leurs économies. Or, la plupart de ces pays n'ont jamais été des puissances colonialistes et encore moins des puissances néocoloniales, comme c'est le cas avec la France. Donc, ces pays, frontièrement, n'ont rien à perdre en se détachant de la France, parce que ce n'est pas la France qui construit la première économie européenne et l'économie allemande. Ce n'est pas la France qui construit l'économie espagnole ou italienne. Pourtant, c'est des économies endogènes assez solides qui n'ont pas besoin d'aller piller les ressources naturelles et humaines en Afrique. Vous comprenez? Donc, il y a une telle certitude. Le temps est venu. Et il y a un mouvement de fond aussi qu'on aussi se dégage. qui à terme doit réduire la France à sa plus simple expression, même pas comme puissance régionale comme dit Luc Michel, comme simplement une ancienne puissance qui, à un moment donné, jouera le figurant sur la scène géopolitique internationale.
Pierre Clavien-Codeau, éditorialiste et directeur de la publication Horizon Nouveau. Merci beaucoup. Vous étiez avec nous depuis le Cameroun. Un grand merci. Un merci également à M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, d'avoir apporté beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Au revoir à tous.
À bientôt. Revoir, j'espère qu'on reviendra sur le sujet.
Au revoir.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Les présidents des Iraniens et Azerbaïdjanais respectivement, Ebrahim Raisi et Ilham Aliyev, se sont entretenus des importantes questions régionales et des relations bilatérales. Faisant référence aux racines profondes de la civilisation, de la culture et de la religion entre les deux peuples iraniens et azerbaïdjanais, le président Raïssi a déclaré que les deux pays ont une longue et profonde relation et nous ne permettrons jamais que ces relations soient influencées par les ennemis. Nous n'autoriserons pas l'insécurité et l'ingérence étrangère dans les affaires des pays de la région. Et l'expérience a montré que partout où les pays de la région résolvent leurs problèmes par la compréhension et la négociation, la voie à l'ingérence étrangère a été fermée, a ajouté le président iranien. Présentant sa préoccupation envers l'insécurité et la présence des étrangers dans la région, le président Raïssi a précisé que le terrorisme daéchiste et sioniste sont deux facteurs menaçants dans la région et doivent être combattus. Soulignant les objectifs des États-Unis et du régime sioniste de perturber les relations entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, le président iranien a évoqué que l'ingérence des étrangers se fait au détriment des pays de la région et nous devons être vigilants contre leurs complots. Pour sa part, le président azerbaïdjanais a déclaré qu'un groupe de travail spécial sera formé en présence de hauts fonctionnaires pour assurer le suivi et la mise en œuvre des accords proposés. Saluant le soutien sans précédent de l'Iran à l'indépendance de la République d'Azerbaïdjan, M. Aliyev a précisé que Bakou attache une importance particulière à ses relations fraternelles avec Téhéran et que nous ne permettons qu'elles soient endommagées. Nous sommes engagés pour la sécurité des zones frontalières et nous ne permettrons à aucun pays de perturber les relations bilatérales, a-t-il ajouté. Cette rencontre marquera un tournant dans les relations entre les deux pays et nous nous engageons à défendre les intérêts régionaux de la République islamique d'Iran, a-t-il conclu. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, a insisté que la délégation iranienne des négociateurs est arrivée à Vienne avec la ferme détermination de parvenir à un accord. Les États-Unis devront également venir à Vienne avec l'approche de la résolution des impasses créées lors des négociations précédente. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire avec les journalistes, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a salué la commémoration de la journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien et a déclaré que la Palestine est une cause indestructible. Le régime occupant russe viole de toutes les lois internationales depuis des décennies et agit de façon systématique contre les droits du peuple. Palestinien, a ajouté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Condamnant la mesure prise par certains pays chefs arabes sur la normalisation des relations avec le régime sioniste, Khatibzadeh a souligné que la cause palestinienne ne sera jamais oubliée. La Syrie a affirmé que la création du Moyen-Orient d'une zone exempte d'armes et de destruction massive implique l'obligation de l'entité d'occupation israélienne à adhérer au traité sur la non-prolifération et à soumettre les relations israéliennes aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Surtout que les deux pays de la région ont adhéré au traité et attendent l'application des promesses données en vue d'exercer des pressions pour l'adhésion d'Israël à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Dans un communiqué qu'il a lu devant la deuxième session de la conférence sur la création d'une zone exempte des armes nucléaires et des autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, l'ambassadeur permanent de la Syrie à l'ONU, Bassam Sabar, a indiqué que la Syrie considère la création d'une zone exempte des armes nucléaires et des autres armes de destruction massive comme un pas positif, une contribution efficace pour réaliser les objectifs de la non-prolifération et du désarmement. Sabar a fait savoir que la Syrie était parmi les premiers pays qui avaient adhéré au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 1969, signé la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes biologiques en 1972 et adhéré en 2013 à la SIAC, ce qui démontre son attachement à aller de l'avant dans les mesures de la création au Moyen-Orient d'une zone exempte de toutes les armes de destruction massive. La Syrie réaffirme que la création de cette zone n'a pas besoin de mesures de construction ou de confiance, mais de l'adhésion d'Israël au traité sur la non-prolifération et de la soumission de toutes ces installations aux garanties de l'AIEA, a-t-il conclu. Le président libanais Michel Aoun s'est rendu lundi à Qatar où il a rencontré l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. L'émir du Qatar a affirmé au président de la République Michel Aoun lors de l'entretien au divan des Émiratis à Doha que le Qatar se tient aux côtés du Liban et il est prêt à l'assister dans tous les domaines nécessaires pour lui permettre de surmonter les circonstances difficiles qu'il connaît. L'émir du Qatar a remercié le président Aoun d'avoir accepté l'invitation qui lui avait été adressée d'assister à l'ouverture de la FIFA 2021. Il a déclaré « Le Qatar a toujours été et sera toujours aux côtés du peuple libanais », saluant le rôle des ressortissants libanais au Qatar et dont le nombre dépasse désormais les 55 000 personnes. Il a évoqué les conditions difficiles que traversent les Libanais, notant que son pays est prêt à contribuer aux investissements au Liban après avoir mis en place les lois appropriées à cet effet. La guerre du Yémen, qui dure depuis 7 ans, aura causé la mort de 377 000 personnes victimes directes et indirectes de la guerre d'agression lancée par l'Arabie Saoudite contre le Yémen d'ici la fin de l'année 2021, selon l'ONU. Près de 60% des décès, soit environ 227 000 personnes, sont dus aux conséquences indirectes de la guerre, telles que le manque d'eau potable, la faim et les maladies, selon ce document du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cela signifie, selon les estimations, que les combats auront fait 150 000 personnes à la fin de cette année. Cette année de guerre a eu des effets catastrophiques sur le développement de la nation, selon le PNUD, qui ajoute que l'accès aux soins de santé est limité ou inexistant et que l'économie est sur le point de s'effondrer. La plupart des victimes indirectes sont des enfants particulièrement vulnérables à la malnutrition et la sous-nutrition, indique le PNUD. En 2021, un enfant yéménite de moins de 5 ans meurt toutes les 9 minutes en raison de la guerre, toujours selon ce rapport. Une proportion croissante de ces décès se produira en raison des conséquences indirectes que la guerre exerce sur les moyens de subsistance et le prix des denrées alimentaires et la détérioration des services de base tels que la santé et l'éducation, toujours selon ce rapport. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.